Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, le rap sauve-t-il l'industrie musicale? Le succès express de PNL et de son dernier album ODD, cette année, a mis en évidence la prédominance du rap dans les ventes musicales. Mais de quel rap parle-t-on lorsqu'on évoque à la fois Maître Gims et Soprano, et de l'autre côté la Crime ou Dinos, ou quand on classe, selon les quels critères d'ailleurs, Aya Nakamura, Booba et L'Homme Pâle sous l'étiquette de musiques urbaines? Nous saisissons ce soir l'occasion de la parution d'un gros ouvrage, d'un bel ouvrage, l'Obsession Rap, composé par l'ABCDR du son, pour nous poser ces questions avec nos quatre invités. Wafa Mamesh, elle est fondatrice de la maison d'édition Face Cachée, elle est journaliste musicale et elle a coordonné l'Obsession Rap avec d'autres, et il vient de paraître donc chez Marabout. Raphaël Dacruz est journaliste musical à Move, mais également à ce même groupe l'ABCDR du son, et il a participé à la rédaction de cette même Obsession Rap. Également avec nous, Oumar Samake, il est producteur, il est fondateur du label Spectaculaire, il nous en parlera tout à l'heure, et Dinos, qui est d'ailleurs produit par Oumar Samake, rappeur dont le prochain album Taciturne sortira le 29 novembre prochain. Et ce générique du temps du débat que vous écoutez depuis le début de cette saison est tiré d'un rap justement de Kery James et d'Orelsan, À qui la faute.
Je voulais faire un film, je l'ai fait, je n'ai pas attendu Canal Plus, je n'ai pas attendu le CNC. J'en avais marre de voir les mêmes s'emparer de nos récits. Alors j'ai écrit mon propre scénario des panneaux vides. Je suis pas resté les bras ballants, je n'ai compté que sur mon talent. Je suis pas un fils d'eux, il n'y a que ma détermination qui est le bras long. J'ai dû en faire deux fois plus que ceux qui ont deux fois moins de talent que moi en France. C'est normal pour un Africain. Tu me demandes à qui est la faute. En ce qui me concerne, je suis pas venu au monde dans le but de bâtir les rêves d'un autre. Je porte mes victoires et mes échecs. Je suis pas un esclave, je n'ai pas l'état français pour maître.
Pourtant l'état français continue de vous la mettre. Et tu t'en sors peut-être, c'est que des miettes. Pour mieux faire croire que si t'as échoué, c'est que t'es bête. Parce que la pierre que le bâtisseur rejette finira dans la fenêtre. Un seul film de Kery James, 200 fait par des bobos de merde.
Et voilà, on vient d'apprendre également en même temps que Netflix, qui publiait donc le film Banlieusard de Kery James sur Netflix, avait déjà, ce film avait déjà obtenu plus de 3 millions de visionnages en un peu plus d'une semaine, ce qui veut dire effectivement que c'est la question que nous posons aujourd'hui. Le rap peut sauver l'industrie musicale, mais peut-être aussi l'industrie du film musical. Oumar Samake, qu'est-ce que vous pensez justement d'une telle réussite en très peu de temps, par exemple pour ce titre de Kery James, mais aussi pour ce film Banlieusard?
Bah écoutez, déjà c'est une bonne chose, et je pense que voilà, on est quand même face à deux gros artistes quand même, qui sont Kery James qui est là depuis un moment, et Orelsan aussi. Donc c'est des figures aujourd'hui du rap français, donc sur le succès du morceau, bon, je suis pas étonné, on va dire, c'est normal. Après, en ce qui concerne le film, moi je vais être honnête, je l'ai pas encore vu. J'ai vu quelques parties parce que j'ai un de mes artistes qui a posé dans la BO aussi du film, qui est La Crime. Donc mais en tout cas, j'ai eu pas mal de bons retours concernant le film. J'ai eu pas mal de gens qui l'ont aussi vu, ne serait-ce que par curiosité. Après, peu importe les avis qu'ils aient aimé ou pas, mais en tout cas, on a vu que ça a suscité un engouement et une réelle envie de découvrir ce que Kery a pu proposer sur ce film.
Wafa Mamesh, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai qu'il y a quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que désormais, le rap n'est pas cantonné aux simples plateformes musicales, mais aussi par l'intermédiaire d'un film comme celui-ci, à une plateforme de cinéma, enfin de série, celle de Netflix par exemple.
C'est ça, et puis avant que ça soit un film, c'était aussi une pièce de théâtre. En tout cas, c'est ce que Kery James, il a fait, cette pièce de théâtre, parce que justement, il n'arrivait pas à produire ce film rapidement, en tout cas comme il le voulait. Il y a aussi des livres, comme le nôtre, etc. Moi, j'ai eu la chance de voir ce film, et c'est vrai que ce que je retiens, il y a divers retours, il y a des gens qui aiment, qui n'aiment pas, pour diverses raisons, mais ce que je retiens, c'est quand même l'acte, l'action, et que même si on arrive à avoir des films de rappeurs sur Netflix, il explique quand même comment il a galéré et il n'a pas pu avoir d'autres financements beaucoup plus haut. Donc il est rentré par la fenêtre, mais il n'est toujours pas rentré par la porte.
Oui, c'est une des vraies questions. D'ailleurs, et on la posera cette question pendant tout ce débat avec vous, Raphaël Dacruz, c'est qu'il y a une sorte de plébiscite, pourrait-on dire, pour les musiques de rap. Et on parlera de toutes les musiques de rap qu'on peut écouter aujourd'hui. Mais en même temps, il y a toujours des barrières. Il y a toujours des endroits où on ne peut pas rentrer, des grandes radios, des grands programmes de télévision très populaires, par exemple. Ça ne passe pas.
Ouais, tout à fait. Ouais, bah, c'est souvent ce que dit d'ailleurs l'un des rappeurs les plus populaires en France depuis maintenant 10 ou 15 ans, c'est Booba. Il le dit souvent, ma musique, elle est première en France, mais je passe toujours pas sur RTL ou ce genre de choses, même s'il a été déjà programmé il y a peu de temps, je crois, sur certaines radios du groupe Radio France. Mais je pense surtout que ce qui est remarquable par rapport au rap et au succès qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il a appris à faire sans. Tout simplement, oui, en créant ses propres réseaux et en créant ses propres médias. Donc, quelque part, cette adversité, ça a toujours été un moteur dans le rap, à la fois dans le contenu des propos des musiciens, mais aussi dans finalement sa manière de faire et sa manière de pouvoir faire des choses. Et je pense que même si c'est regrettable de voir qu'aujourd'hui une musique si populaire en France n'ait pas accès toujours à certains médias, à certaines plateformes, en fait, finalement, ça lui permet aussi de lutter avec ses propres moyens et d'être finalement l'une des plus créative aujourd'hui.
Oui, et quand on prend les meilleures ventes 2018, Johnny Hallyday, on comprend pourquoi en premier, mais tout de suite derrière Gims, Dadju, Orelsan, Damso, Kenji Girac, Les Enfoirés, Soprano, Eddie Depreto et Mylène Farmer. Effectivement, dans ce palmarès des 10 premiers, il y en a au moins 6 qui peuvent se revendiquer d'une manière ou d'une autre comme étant du rap. Dinos, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous vous inscrivez dans cette histoire et dans une sorte de généalogie, vous arrivez, c'est quoi? C'est la troisième génération du rap en France? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui?
Troisième, quatrième. Ouais,
est-ce que justement, quand on est rappeur comme vous, on prend en compte toute cette histoire? Est-ce qu'on récupère l'histoire, la généalogie, pourrait-on dire, du rap en France, et on se dit, bah, je suis à la fois l'héritier des tout premiers, des IAM dans les années 80, est-ce qu'on est l'héritier de tout cela, et aussi, pourquoi pas, de MC Solar, et en même temps, de toutes les générations qui sont venues entre les deux?
Bah, moi, je le prends en compte, ce fait-là, parce que je sais qu'à l'époque, il y a énormément d'artistes qui ont fait pour ce que nous avons aujourd'hui, qui se sont battus pour tout ce que nous avons aujourd'hui et qui n'ont pas pu avoir certaines choses que nous avons aujourd'hui.
Donc, c'est quoi ce que vous avez justement, dont vous bénéficiez, dont les autres ne bénéficiaient pas par exemple?
La facilité de sortir des morceaux, le streaming, tout le monde peut rapper aujourd'hui. Maintenant t'as un studio, t'as un ordinateur, tu peux poster des chansons. Avant c'était pas si facile que ça, fallait être sur le terrain, c'était pas aussi évident que ça. Aujourd'hui il y a beaucoup plus de gens qui peuvent prétendre être rappeurs. Et aussi, ça fait quand même beaucoup de surcharge, on va dire, sur le marché. Mais on a plus de facilité, je pense, qu'à l'époque.
Oumar Samaké, ça fait un moment que vous êtes dans le milieu. Ouais. Vous avez cette impression aussi que ça, il y a quelque chose de plus facile et en même temps toujours des barrières?
Bah, en fait, il y a des bons et des mauvais côtés.
Alors, on va dire, les deux.
Les bons côtés, c'est sûr, c'est comme l'expliquait Dinos à l'instant. C'est vrai que il y a une accessibilité. Aujourd'hui, au business de la musique, qui est beaucoup plus facile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'un jeune, aujourd'hui, de 18-20 ans, il fait un morceau dans sa chambre, il paye un petit forfait sur Internet et sa musique, elle est propagée partout et c'est lui et sa chance, ça peut fonctionner avec les réseaux sociaux, etc. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que en termes de business, c'est plus facile. Après, les mauvais côtés aussi, c'est ce qu'il disait aussi Dino, c'est qu'au final, ça crée un embouteillage terrible et aujourd'hui, il faut faire le tri entre le bon et le mauvais.
Et alors justement, vous, en tant que producteur, comment vous faites le tri? C'est des journées entières à écouter?
Non.
C'est des recommandations des amis? C'est des recommandations?
Moi, après, c'est vrai que... Bon, comme avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui viennent à moi. J'ai pas besoin forcément de chercher. C'est ça qui est bien, c'est qu'on reçoit beaucoup de choses. Après, on peut pas tout écouter non plus parce qu'il faut pas se polluer. Et moi, je pars du principe où j'essaye déjà de faire exploser les artistes que j'ai avant d'écouter tout ce qui se fait. Même si j'écoute beaucoup de choses, mais c'est vrai que je passe pas mes journées à écouter ce que je reçois.
Raphaël Dacruz, quand on prend ce cas du rap, on se dit il y a embouteillage, c'est-à-dire qu'il y a trop de titres, il y a beaucoup de titres qui sont propagés, mais évidemment assez peu d'élus. Mais néanmoins, il y a toute cette possibilité pour quelqu'un qui n'a jamais rien fait au départ de se faire connaître pour un titre. Et donc ensuite, peut-être de creuser l'affaire. C'est ce que vous avez fait depuis 20 ans avec l'abécédaire du son, les uns et les autres. C'est-à-dire vous avez tenté de repérer ce qui allait naître et ce qui allait se développer.
Bah, parfois, oui, en tant que journaliste musical, ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement d'être un peu prescripteur et de comprendre ce qui va arriver, ce qui va marcher. Je me souviens par exemple qu'à l'époque des premiers titres de PNL, ou en tout cas au moment où le phénomène PNL commence à naître, je le dis modestement, d'autant que j'étais pas dans cette émission, mais on avait une émission vidéo dans laquelle, en fait, finalement, on a plus ou moins pressenti en fait que PNL allait être gros. Et ça n'a pas menti, puisque quelques mois plus tard, avec la sortie de leur premier album, Le Monde Chico, donc on était fin 2015, ils ont, alors qu'on n'était pas encore à l'époque l'époque, justement, la prise en compte du streaming tel que c'est le cas aujourd'hui, ils ont complètement explosé les scans en termes de chiffres de vente. Il y a eu un engouement incroyable qui s'est encore confirmé cette année avec leur quatrième album. Donc effectivement, c'est un peu notre rôle en tant que média aussi de comprendre ce qui va arriver, ce qui va marcher, mais aussi d'analyser ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire de donner des clés de compréhension de c'est quoi le rap à un moment T.
Wafa Mamesh.
C'est vrai qu'on, la différence, je dirais, que de l'ABCDR du son, c'est qu'on n'est pas vraiment porté sur l'actualité. Donc, on peut très bien parler des nouveaux projets, comme on peut parler de ceux qui sont sortis il y a 5 ou 10 ans. On essaye de pas trop aussi se fier au buzz du moment. Parce que là, vous parliez d'artistes qui font un morceau et puis voilà, on essaye de pas trop vraiment se caler sur ça. Vraiment, peut-être de comprendre ce qui se passe sur la durée. Et même finalement, si ce sont des artistes qui s'implantent même à leur propre échelle, à propre niveau local, sans forcément faire aussi des vues incroyables. Donc, ce truc de statistique, il est bien, mais on essaye vraiment de pas le prendre en compte.
On va quand même prendre en compte celui de PNL. On écoute un extrait de ODD.
Bas les couilles de l'Himalaya, bas les couilles, je vise plus sommet. Mon cœur fait oulalala, crime passionnel que je commets. Sur ton cœur, je fais trou de poulette, je fais tache de sang sur le pull. Je désire nullement vous connaître, ni toi ni ces fils de pute. Je me tire d'ici si je m'écoute, sans corps se mélanger, bougnoule. La lune, j'aime plus, je vous la laisse. Je m'endors sous doré, sous nul. Je suis ni de chez moi, ni de chez vous. Elle veut la bise avec que je la baisse. Je connais la route, je connais l'adresse. Je t'encule sur le continent d'Hadès. Sale comme ta neige, neige courte. Forte comme la peur, j'écoute. J'tire la gueule, j'n'écoute. Que mon âme seule, mec tout. J'vis dans un rêve érotique où j'parle peu mais j'caresse le monde. J'meurs dans un cauchemar exotique où la terre ressemble à ma tombe. Igo, pourquoi toi tu parles en ego? Si ça se tue, ouais, dis-moi qui signe. Pas d'honneur, toi tu sens d'ici. Wallah, baba, m'a dit mon fils, non, non. Toi pas calculé ses pédales. Moi j'ai donné pendant longtemps, puis j'ai perdu mes pétards.
Alors voilà, c'est donc PNL, ODD, un clip tourné en haut de la Tour Eiffel, avec 12 millions de vues en 48 heures sur YouTube, désormais 123 millions de vues sur YouTube, et puis PNL s'est classé parmi les 5 meilleurs démarrages d'albums physiques mondiaux de rap de l'année. Ça fait rêver ça, Omar Soumaké, pour...
Ça c'est une très grosse réussite, c'est une fierté même pour le rap entier. Même si aujourd'hui je suis pas producteur de ces artistes, c'est génial. Ça montre à quel point aujourd'hui cette musique elle pèse vraiment dans l'industrie du disque.
Et comment on peut l'expliquer? Non pas qu'elle pèse dans l'industrie du disque, mais que désormais ça démarre aussi vite, que des titres comme ça démarrent avec une croissance immédiate et absolument extraordinaire. Qu'est-ce qui justifie ça?
Ça pour moi c'est clairement Internet, c'est avoir l'accès aussi rapide aux morceaux. Aujourd'hui ça veut dire que aujourd'hui, les artistes, le public, tout le monde sait à quelle heure le morceau va être mis en ligne. Il n'y a plus besoin d'écouter la radio pour savoir à quelle heure va être diffusé le premier titre ou de regarder la télé. Aujourd'hui, on sait, c'est programmé, c'est à minuit le jeudi soir. Et le jeudi soir, les gamins, ils dorment plus maintenant parce qu'ils savent qu'il y a tous les albums qui sortent le jeudi à minuit. Donc aujourd'hui, à 7h du matin, tu te réveilles, tu regardes Twitter, c'est déjà le feu.
Mais comment, en tant que producteur, on programme tout ça? C'est-à-dire comment, d'une certaine façon, on a compris qu'il y avait un autre modèle qui est en train de se mettre en place et que ce modèle-là, on allait en profiter.
Bah en fait, on l'a compris entre guillemets, c'est un modèle qu'on nous a imposé. Hein. Donc ça veut dire que...
Oui, mais vous avez su faire votre chemin au milieu.
Après, nous, on va dire que c'est un modèle qui a été très favorable d'entrée de jeu pour le rap. D'entrée de jeu, parce qu'on a été les premiers, je pense, à utiliser le digital, même avant le streaming, ne serait-ce que sur iTunes. Déjà, le fait de pouvoir avoir de la musique téléchargeable, l'accessibilité au téléphone portable, tout ça, à la base, c'est vrai que c'est les jeunes qui étaient grave connectés sur les smartphones. Donc, c'est une musique qui nous a été très favorable, surtout pour nous. Une manière de consommation, pardon.
Oui, parce que avant d'être rappeur, on consomme du rap, on en écoute, et à partir de ce moment-là, on sait comment faire. Dinos.
Ouais, et pour revenir sur ce que Omar disait, par exemple, il y a un album qui s'appelait One Beat, qui a été coproduit par Omar et plein d'autres gens, qui est sorti en 2008. Moi, j'étais auditeur. Je rappais dans mon coin, mais c'était pas encore quelque chose de professionnel ni d'abouti. Et c'est le premier projet de rap qui sort uniquement en digital. Et ça, en fait, l'accessibilité était différente. Ça me donne envie d'avoir iTunes, ça me donne envie d'acheter. C'est uniquement en digital, je vais pas aller à la Fnac. Lundi,
c'est même pas de rap, c'est le premier
projet tout court en vrai, en France, à être sorti en digital.
On a craché sur le physique, nous, en 2008.
Cracher sur le physique, c'est-à-dire sur le support physique.
Bien sûr, on était déjà prêt à pouvoir mettre notre musique 100% digitale et ça donnait accessible à tout le monde. C'était déjà révolutionnaire déjà à l'époque.
Je me rappelle qu'à l'époque où c'est sorti uniquement en digital, les gens ne comprenaient pas. Et...
C'est-à-dire que le public n'était pas encore formé à ça.
C'est la réaction que les gens ont eue quand on a quitté la cassette pour le CD, etc. etc. Ouais. C'est toujours différent. Quand on arrive au streaming, les gens disaient la même chose, que le streaming, ça ne va pas durer. Et pourtant, je pense que c'est le meilleur des moyens de faire vivre la musique et surtout d'exporter la musique. Quelqu'un qui est en Asie, quelqu'un qui est aux États-Unis, peu importe, peut écouter la musique à partir du moment où je la poste. Un CD, c'est différent. On n'a pas toujours la facilité de sortir nos CD. Mon CD sortira peut-être pas au Mexique, au Venezuela, mais quand tu as Spotify, Apple Music, tu peux écouter l'album. Et surtout, quand tu as Spotify, si tu mets la musique en repeat, et je gagne de l'argent. Alors que le CD, c'est qu'une fois.
Raphaël Dacruz.
Ouais, ce qui est remarquable effectivement, c'est que il y a une vraie révolution pour le rap. C'est que finalement, on savait tous nous en tant qu'acteurs de cette musique que derrière les gros succès de commerciaux grâce au format physique, qui ont été, je pense sur une longue période, de Diams à la section d'assaut, en passant par dans une moindre mesure Booba, Rof ou La Fouine. On savait que finalement le rap était une musique très très écoutée. Elle était très écoutée sur Internet. Alors effectivement, il y avait la possibilité d'écouter en digital, mais le téléchargement illégal était très important. L'écoute sur YouTube aussi a été très important. Ah oui. Mine de rien, on pouvait écouter de la musique sur YouTube sans regarder des vidéos, par exemple. Et d'un seul coup, en 2016, le SNEP, ou en tout cas l'industrie musicale française, décide de prendre en compte...
C'est le syndicat national de l'édition phonographique.
Absolument. Qui décide de prendre en compte les chiffres de l'écoute de la musique en ligne. Et là, d'un seul coup, tout le monde s'est réalisé. Ah oui, tout le monde écoute du rap, mais nous, on le savait déjà, en fait. Il y avait un arbre qui cachait la forêt et qui d'un seul coup, en fait, grâce à cette donnée chiffrée, a permis de dire, oui, effectivement, en fait, le rap, il y a une immédiateté.
C'est la première musique.
Et que c'est la première musique en France.
Ouais, femme à mèche.
Et ce qui est marrant avec l'exemple de Dinos avec One Beat, c'est qu'on est en 2008, et à ce moment-là, il y a aussi beaucoup de téléchargements illégal, donc même si les gens téléchargeaient aussi beaucoup, ils n'étaient pas prêts en fait à la disparition du CD, et on le voit aussi maintenant, même si le streaming a dépassé les ventes de CD, je crois que c'est depuis l'année dernière, ça reste encore assez important, et je crois que c'est aussi assez français. Et juste pour terminer sur ce qu'on disait tout à l'heure sur PNL, pourquoi aussi ça a été fulgurant, c'est parce que au-delà de la musique, ils ont créé quelque chose, ils ont suscité l'attente, ils ont créé des personnages, ils ont créé des univers, et les gens étaient vraiment attendaient quelque chose d'encore plus gros.
Oui, sur cette question de ce que dit d'ailleurs dans l'abécédaire du rap, de l'obsession rap, là, ce que dit Grems, il dit « Nous avons vécu plusieurs époques du rap ». Vous avez vécu plusieurs époques du rap ?
Ouais, j'en ai vécu plusieurs.
Omar Samaquet ?
Ouais, moi j'ai vécu... moi je travaille dans le rap depuis 2003, un truc comme ça, 2002, 2003.
15 ans quoi.
Ouais, voilà. Donc j'ai commencé assez jeune. Et c'est vrai que j'ai connu tout type de support. Plusieurs manières de consommer la musique et surtout plusieurs vagues artistiques complètement différentes.
Et aussi peut-être cette question de savoir s'il y a une présence physique des rappeurs dans l'espace public, par exemple dans des concerts, dans des festivals, etc. Ce qui n'est pas si évident que cela, alors qu'on vient de dire depuis le début de cette émission que c'est un énorme succès, que tous les rappeurs remportent de très très grands succès, beaucoup de rappeurs remportent de très grands succès publics en vendant sur les plateformes, en particulier leurs titres. C'est pas évident de trouver aussi des espaces pour pouvoir se produire.
Après, moi je trouve que ça a un peu changé, pour être honnête.
C'est nouveau ça.
Veut dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais quand ça va, faut le dire. Personnellement, moi, avec mes artistes, j'ai fait pas mal de festivals cet été et les programmations de festivals sont de plus en plus urbaines, justement.
C'est récent.
Ouais, c'est récent. Mais aujourd'hui, en tout cas, on peut plus se féliciter de ça parce qu'aujourd'hui, moi, quand je vois les line-up de tous les différents festivals, aujourd'hui, il y a quasiment aucun festival qui peut se passer du rap dans leur festival. Même dans des festivals électro, ils bookent des rappeurs maintenant. Donc en vrai, à ce niveau-là, non, on s'exprime un peu plus à ce niveau-là.
Raphaël, d'accord.
C'est le cercle vertueux qui a apporté justement ce changement dans l'industrie musicale de la prise en compte du streaming. En fait, à partir du moment où on s'est rendu compte qu'effectivement, les rappeurs étaient très écoutés, d'un seul coup... Tous les acteurs de l'industrie qui ont compris qu'il y avait de l'argent aussi qui était possible de faire, et je ne dis pas de manière cynique, hein, simplement c'est une industrie.
On parle de l'industrie musicale.
Les artistes comme les programmateurs, ils ont compris qu'il y avait un vrai public pour ça, qu'il y avait des personnes qui étaient prêtes aussi à voir des rappeurs sur scène, et donc c'est vrai que depuis 2016, que ce soit les salles de concert des SMAC jusqu'aux grosses salles type Zénith ou les festivals, d'un seul coup tout le monde s'est dit, mais en fait il faut qu'on programme du rap, et tant mieux, parce que le rap sur scène, ça fonctionne très bien, contrairement à beaucoup de clichés qui circulaient sur le rap en live. Dans les années 2000, en fait, le rap sur scène, ça fonctionne très bien et il y a très peu de problèmes en général.
Et Dinos, vous serez d'ailleurs au printemps, c'est le 30 avril 2020, dans une salle mythique qui n'est pas une salle a priori pour le rap, c'est l'Olympia.
Exactement.
Et ça veut dire quoi, ça, justement?
Bah, ça veut dire que notre musique peut remplir des salles. Moi, je remplis l'Olympia, il y en a d'autres qui remplissent des Bercy, des U Arena, toutes les salles, en fait. Booba remplit la U Arena, je crois que ce soir, Big Flo et Oli font la U Arena. On a une facilité aujourd'hui à remplir des salles, même moi, ça me surprend. On a fait le décembre de l'année dernière, la Cigale, c'était à guichet fermé, et ça se remplit et ça se vend. Et pareil pour les festivals, on voit le public, on voit qu'ils sont friands, on voit que c'est notre musique qu'ils écoutent.
Et le 30 avril, donc, à l'Olympia, vous présenterez votre prochain album qui sortira le 29 novembre, qui
exactement.
S'appelle Taciturne.
Taciturne.
Publié d'ailleurs chez Spectaculaire, chez Capitol. Et vous êtes également donc l'auteur de XNXX,
exactement.
Dont on va écouter un extrait.
Merci.
Les Champs-Élysées brillent avec la lumière de l'Afrique. Des engins avec des gilets pare-balles viscères dans ma street. Je veux changer de galaxie, même pas changer de pays. Mes paupières tremblent seules, je suis nerveux comme un GTI. Des larmes sur le sol, du sang sur les murs. Si tu me demandes qui je suis, je te dirai que je suis perdu. Chacun pense à soi, chacun porte sa croix. Je fais confiance à personne, j'ai vu The Wire trois fois. Les Champs-Élysées brillent avec la lumière de l'Afrique. Je rappe le charme du ghetto, la misère de la street. Je les baisse tout seul comme un grand, l'argent me va comme un gant. Le rap c'était mieux avant, tu dis que le rap c'est mieux avant. Je me rappelle du mal, je me rappelle du bien. Mais je me rappelle que tout va mieux quand je me rappelle de rien. Je me rappelle du mal, je me rappelle du bien. Mais je me rappelle que tout va mieux quand je me rappelle de rien.
Je sais pas si on est vraiment heureux, mais...
France Culture.
Même si c'était pas à refaire, moi je le referais.
Le temps du débat.
Ouais, je le referais, ouais. Direct.
Emmanuel Laurentin.
Et rien que pour ça, on est très content de faire cette émission, de merci. Pouvoir poser la voix merci. D'Anne de Biran qui fait les annonces sur France Culture, sur votre propre titre, Dinos, donc XNXX, qui est le dernier single que vous venez de sortir. Une question tout de même, est-ce que... tout ce qu'on appelle le rap, c'est du rap, d'une certaine façon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes comptable de tout ce qui est dans les charts, qui est présenté comme étant du rap, ou Marcin Maquet?
Aujourd'hui, le rap, c'est devenu un grand mot qui veut plus vraiment dire quelque chose, on va dire, pour être honnête. Aujourd'hui, c'est très dur de mettre un nom à ce style-là.
Parce qu'on peut avoir été dans des groupes qui sont reconnus comme des groupes de rap, comme
exactement.
D'Assaut,
ouais.
et faire comme Soprano, pop. Et faire Soprano, ouais. 50 000 personnes à Lille, dans le stade exactement. De Pierre-Mauroy au mois de septembre.
Aujourd'hui, voilà, le mot que, le nom du saladier, on va dire, c'est la musique urbaine. J'aime pas trop ce nom-là parce que je trouve qu'il représente rien du tout, mais finalement, j'ai pas encore trouvé le terme pour exprimer un peu, comment on peut appeler toute cette musique-là, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le rap, ça veut... Il y en a qui font encore du rap, mais il y a d'autres gens qui sont considérés comme des rappeurs qui ne font pas de rap. Donc, mais ça reste quand même de la musique urbaine.
Ouais,
donc
c'est un peu compliqué.
On est un peu dupés.
Il y a les puristes et les autres, Raphaël Dacruz.
Bah, le rap a subi tellement de mutations que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a grandi avec des codes rap qui étaient ceux des années 90 avec une musique assez uniforme finalement, aujourd'hui, j'imagine quelqu'un qui aurait été cryogénisé dans les années 90, se réveille en 2019 et écoute l'état du rap aujourd'hui, il serait probablement très perdu. Mais tant mieux en fait, parce que la musique, la culture, l'art, c'est mouvant. Donc c'est important en fait que ça puisse s'hybrider, et muté avec plein d'influences différentes. Quoi.
Ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'Obsession Rap, c'est que vous y faites une sorte de bilan de 20 ans de cette histoire du rap, et on voit qu'effectivement il y a des très grandes vedettes qui ont disparu, des gens qui n'ont plus publié depuis longtemps, qui n'ont pas sorti d'album ou de titre depuis longtemps, Wafa Mamesh et d'autres qui ont émergé. Voilà, des carrières qui s'arrêtent, d'autres qui redémarrent, ça fait partie aussi de la vie d'une industrie musicale.
Oui, exactement. Et puis l'évolution passée d'un rap, voilà, on parlait de Soprano, le Soprano des psychiatres et le Soprano d'aujourd'hui, c'est plus pareil, mais il s'est adapté aussi au public, il s'est adapté à ses envies d'hommes, il s'est adapté à la musique qu'il écoute. Donc c'est tout à fait normal de faire des crossovers, et c'est vrai que la seule distinction, je dirais, qu'on fait encore aujourd'hui, c'est rap.
Crossover, c'est des mélanges de genres.
Voilà, c'est ça. Et puis de l'autre côté, pop urbaine, zumba, etc., ça on arrive encore un peu à la différencier, mais donner encore des sous-catégories dans le rap, c'est un peu compliqué. Oui.
Voilà. Un autre exemple, par exemple.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si
Voilà donc un crossover qui a bien marché entre Gims et Vianney. C'est la chanson la plus diffusée sur les radios françaises l'année dernière. Elle est issue de l'album Ceinture Noire de Maître Gims. C'est la deuxième meilleure vente d'album en 2018, juste derrière Johnny Hallyday ou Marcin Mackey. Voilà un exemple. Il vient vraiment du rap. Il n'y a pas de problème pour Gims.
C'est clair.
Et maintenant ?
Aujourd'hui, pour moi, c'est un artiste de pop. C'est un artiste de pop et je pense que...
Est-ce que c'est de la variété, comme on disait dans le temps, à propos de ces chanteurs qui venaient du rock dur, par exemple, et qui sont devenus des chanteurs de variété ou de yéyé dans les années 60 et 70 et qui ont donc irrigué la chanson française tout en n'étant plus du tout à l'origine, d'une certaine façon, ils étaient à l'origine.
C'est un peu ça, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est pas qu'on vient de, entre guillemets, on va dire d'un style musical qu'on est obligé d'y rester enfermé. Aujourd'hui, Maître Gims, il a très bien pu commencer par le rap et finir à faire de la pop ou de la variété. Après, ça, c'est une possibilité aussi. Quand on a le talent pour le faire, il ne faut pas hésiter. Hein.
Dinos, ça vous intéresserait de sortir du rap tel que vous le faites pour aller vraiment vers autre chose? C'est-à-dire avec des crossovers, des mélanges avec d'autres artistes de variété française qui n'ont rien à voir avec des rappeurs, par exemple?
Dans quelques temps, ouais. Si j'accomplis ce que j'ai à accomplir là dans le rap, pourquoi pas?
C'est quoi la mission que vous vous êtes donnée?
Vendre ma musique, faire plaisir, partager des émotions, procurer des émotions, être une sorte de remède pour ceux qui écoutent ma musique. Donc à partir du moment où j'aurai accompli cette tâche, que je sentirai que je l'aurai pleinement accompli, bah je pourrai expérimenter de nouvelles choses, tenter de nouvelles choses.
Oui, mais être un remède, certaines de vos chansons sont des chansons nostalgiques, ouais. Ou peut-être mélancoliques, peut-être ouais. Plutôt d'ailleurs.
Ouais.
C'est un drôle de remède que de proposer de la mélancolie, c'est-à-dire d'être triste parfois. Ça n'a pas évidemment cette vertu sautillante de Gims et de Vianney, par exemple.
Non, mais vous savez, quand les gens sont tristes, ils écoutent des chansons tristes. Par exemple, on écoutait une chanson de Maître Gims et Vianney, qui paraît dansante, mais c'est des accords mineurs, donc c'est des accords tristes, et donc au final c'est une chanson triste. Stromae, c'était le maître de faire ça, de la musique triste et dansante. Vous voyez, donc c'est pas parce que la musique est triste ou joyeuse que c'est pas un remède. Je pense que l'art, c'est un remède avant tout. Certains aiment la peinture, certains aiment la musique.
Raphaël Dacruz.
Et puis pour le cas de Dinos, par exemple, si on écoute les premières choses qu'il a fait au tout début de sa carrière, ce qu'il a fait aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi une progression, une évolution, qu'il a tendu vers des choses plus mélodieuses aussi. Il y a un morceau notamment sur son album qui s'appelle Helsinki. Pour moi, ça rivalise avec tout ce qu'on peut faire en grande variété française.
Ah alors, oui, Helsinki, c'est Jacques Brel, donc on peut pas dire autre chose. Non, mais c'est vrai, pour ceux qui connaissent pas ce titre, c'est Jacques Brel.
Merci.
Peut-être pas dans la forme musicale entièrement. C'est pas de la chanson pour le coup.
Je peux.
Dinos rappe vraiment sur ce morceau-là, mais je trouve qu'en termes d'accord et de tout ce qui peut être dit et tout ce qui peut être transmis en termes d'émotion.
Est-ce que je peux intervenir?
Ouais, bien sûr.
Vous parlez de Jacques Brel et vous parliez de la forme de la musique. Bah, par exemple, une chanson de Jacques Brel que j'aime énormément, c'est Vesoul.
Ouais.
Qui est une chanson dansante.
Oui, et qui pourtant.
Marcel fait de l'accordéon, etc. Et pourtant, dans le fond, c'est une chanson triste. C'est un mec qui est en train de céder aux caprices de sa femme durant le long de la chanson. Et au final, c'est une chanson triste. Et pourtant, la chanson est dansante.
Oumar Samaké, quand on regarde ce paysage du rap, on se dit qu'il est très éclaté. Mmh. Est-ce que s'il y avait plus d'union, mais je ne sais pas comment, peut-être autour de l'abécédaire du son, peut-être autour d'initiatives communes, vous pourriez vraiment défoncer le système tel qu'il existe aujourd'hui?
Quand vous dites plus d'union, c'est plus d'union entre qui et qui?
Entre tous ceux qui aiment le rap et qui aiment cette musique, d'une certaine façon, producteurs, musiciens. Par exemple, on voit bien effectivement que les conflits internes parfois font que les gens ne travaillent pas ensemble, ne veulent pas travailler ensemble. Est-ce qu'ici, il y avait véritablement une volonté, peut-être même de créer vos propres labels, vous l'avez fait, mais pour pouvoir créer des maisons de distribution, pour pouvoir vous passer des distributeurs, des grandes maisons, est-ce que ça serait possible ça, par exemple?
Je pense que tout est possible. Après, je pense pas que les problèmes entre artistes ou entre labels aient un problème qui vient du rap. Je pense que c'est un problème humain.
Oui, c'est vrai. Musique. Vous avez raison.
On n'est pas les seuls à s'embrouiller entre nous, je pense. C'est juste que quand c'est nous, ça fait un peu plus de bruit que les autres.
Ouais.
Mais on sait très bien que je pense pas, je trouve justement qu'on arrive à faire pas mal de choses ensemble. Moi, personnellement, en tout cas, en tant que producteur, je suis proche de plein d'autres producteurs qui font exactement le même métier que moi. Mes artistes sont proches de plein d'autres artistes. Je connais aussi plein d'autres artistes. J'ai travaillé autant avec Universal que j'ai pu travailler avec Sony, que j'ai pu travailler avec Warner. Donc c'est vrai que, bah, comme dans tout, hein, je pense que voilà, il y a des problèmes comme dans tous les métiers. Je pense dans les médias, il y a des médias qui s'entendent pas. Dans le foot, il y a des coéquipiers qui s'entendent pas, mais ça les empêche pas de jouer ensemble. Et nous, personnellement, j'ai pas trop de problèmes. Après, oui, c'est vrai qu'il y a des possibilités de faire beaucoup plus. Et je pense que ça sera possible à un moment donné, mais ça, je pense pas que ça vienne des liens qu'il y a entre nous. Je pense que l'enjeu, il est ailleurs. Il n'est pas à ce niveau-là.
Dans votre livre, Wafa Mamesh, c'est Kondo qui dit ça. Et, il dit, Sirof, Booba et Maître Gims se réunissaient pour monter leur chaîne de distribution ensemble. Le bordel que ça mettrait dans ce putain de système. Si les gars prenaient conscience du pouvoir qu'ils ont, ce serait fabuleux, dit-il.
Oui, mais je pense que, comme a dit Oumar, c'est propre à toute l'industrie. Mais j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux, en tout cas par rapport à avant. Il y a plusieurs initiatives. Moi, c'est clair que je pense à Rentre dans le cercle, par exemple. Juste
expliquer.
Rentre dans le cercle, qui est une émission média, enfin qui est une sorte de cypher où Sofiane, le rappeur, invite plein d'autres rappeurs à venir. Donc, que ça soit des nouveaux ou des anciens, voir autant de rappeurs sur autant de saisons venir rapper, et puis il invite des médias, des mecs de producteurs, etc. Je pense que c'est des choses qu'on voyait pas il y a quelques années. C'est vrai qu'avant il y avait plus de collectifs, il y avait des écuries aussi qui étaient différentes et qui pouvaient peut-être être les unes contre les autres. Aujourd'hui, je trouve pas du tout que c'est le cas. Après, pour revenir sur Kondo, est-ce que c'est aux artistes de pour pallier cette problématique de créer leur propre réseau de diffusion? Je sais pas, de distribution. Enfin, chacun, un artiste est fait pour faire de l'art. Et c'est aussi les autres qui doivent aussi s'adapter, en fait.
Parce que même aux États-Unis, les plus gros artistes, que ça soit Jay-Z ou P. Diddy ou tous ces gens-là, n'ont pas leur propre chaîne de distribution. Ils sont comme nous, ils ont des labels indépendants, ils sont associés avec Universal ou avec Sony et ils travaillent très bien comme ça. Donc en vrai, monter sa chaîne de distribution, aujourd'hui, nous, c'est pas notre métier. Il y en a qui sont censés faire ça, mais c'est pas à Booba.
En fait, vous en profitez d'ailleurs de ces maisons de disques dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a le marketing derrière, il y a toute la promotion, il y a
mais
toute
non, la attention, les maisons de disques, c'est pas nos ennemis. Hein.
Ouais, non, c'est ça. Ouais.
Surtout, on en profite, elles en profitent aussi. Hein.
Ouais, ils mangent aussi très bien dans la même assiette que nous.
Ouais,
et
sûr.
Surtout que la maison de disques ne sont pas nos ennemis, ce sont nos partenaires avec qui on travaille. Et effectivement, on en profite comme ils en profitent parce qu'on apporte un savoir-faire. Moi, par exemple, pour mon cas personnellement, je suis un label indépendant et j'ai des gens autour de moi avec qui je travaille. Et on apporte notre savoir-faire aussi à la major avec une expertise peut-être que nous on a sur certaines choses que eux n'ont pas. Et ils nous apportent quelque chose que nous on n'a pas. On travaille ensemble en fait.
Mais par exemple, vous avez fait changer les uns ou les autres ou ensemble, vous avez fait changer le type de contrat qu'on signait avec les maisons de disques.
Ouais, bien sûr.
Les contrats d'artistes, par exemple, qui étaient signés auparavant, qui étaient figés, qui permettaient pas à l'artiste d'aller à droite et à gauche et qui étaient coincés dans la maison de disques, par exemple, ça n'existe plus.
Ça n'existe plus parce que on s'est battu pour ça, on s'est battu pour avoir plus de liberté, surtout, on va dire, dans la musique urbaine, où c'est vrai que comme on n'était pas non plus très valorisé par les majors, ils préféraient investir sur d'autres types de musique, on a dû créer aussi notre propre business, qui a fait que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes contrats.
Et vous êtes propriétaire des masters, par exemple, quand un artiste fait un master, c'est-à-dire fait donc son œuvre d'une certaine façon, vous en restez propriétaire, alors qu'auparavant c'était dédié à la maison de disques, souvent.
Exactement.
C'est votre cas, Dinos?
C'est le producteur qui est pour le coup propriétaire des masters. Après, nous, on a un contrat très intéressant. Et ce qui est bien, comme il l'a dit Omar, il y a beaucoup moins de contrats d'artistes, etc. Parce qu'il y a Internet. Aujourd'hui, on arrive en position de force.
C'est-à-dire que vous vous faites connaître sur Internet, vous avez déjà des followers, vous avez déjà...
Exactement. À l'époque, il y avait quand même un processus qu'on appelait le développement d'artistes, qui était souvent mis en place. Aujourd'hui, il y a plus tant de développement que ça, et c'est pour ça que j'aimerais féliciter Omar, même si c'est parce que c'est mon manager,
mais c'est
honnêtement, c'est quelqu'un qui fait le mieux le développement en France, qui a développé...
Qu'est-ce que vous appelez le développement?
C'est de prendre un artiste, quand il est il vient juste de sortir de l'œuf, d'accord, et ça devient un dinosaure.
Moi, c'est un peu le truc que j'affectionne un peu dans la musique. C'est vrai que travailler avec des artistes qui sont déjà très gros, c'est pas ce qui me passionne.
Ouais.
Moi, j'aime bien découvrir les artistes dans leur état primaire et faire en sorte qu'on puisse ensemble faire évoluer cet artiste, faire évoluer la marque. Moi, commencer un concert à la Maroquinerie et finir à Bercy, pour moi, c'est ça le kiff. C'est pas d'arriver avec un artiste qui est déjà gros, qui veut travailler avec moi.
Et procéder par palier.
Procéder par palier et voir l'évolution. Nous, c'est ça la fierté.
Et je pense que c'est beaucoup plus valorisant. Parce que on prend les risques, on prend les coups ensemble. Mais on gagne ensemble et on est en haut ensemble. Et c'est ce qui est vraiment intéressant et c'est une expérience humaine beaucoup plus forte que juste prendre un artiste qui a déjà éclaté et faire autre chose.
Raphaël Lacrouze.
Je ne sais pas quoi répondre à ça.
Comme vous n'êtes pas producteur.
Oui, voilà, exactement. Là, on est vraiment sur des problématiques qui sont celles de producteurs-artistes. Mais je peux comprendre effectivement qu'Oumar ait cette position-là, puisque c'est vrai que même nous, en tant que journalistes, il y a aussi ce plaisir de pouvoir mettre en avant un jeune artiste qu'on découvre au hasard d'un titre qu'on écoute sur SoundCloud ou sur YouTube.
Et puis vous le faites
et de le voir développer, même
vous faites passer sur Move ou sur les choses comme ça.
Absolument, même si notre rôle c'est pas non plus d'être manager et de le pousser de manière complètement subjective, mais c'est intéressant de le suivre dès le départ, de voir son évolution.
Et pour vous aussi.
Juste pour clôturer sur le développement commence à revenir, mais c'est vrai que aujourd'hui les majors signent des petits jeunes. Aujourd'hui, quand on parle de développement, on parle aussi d'âge, en fait. C'est de se dire,
c'est-à-dire,
quand on dit un artiste en développement, généralement on prend des petits artistes qui ont peut-être 18-19 ans. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'on signe en développement un artiste qui en a 30 aujourd'hui. C'est plus ça, alors que Oumar a fait du développement avec Dossé, qui avait déjà une carrière derrière, même s'il n'avait pas le succès financier, etc. derrière. Donc aujourd'hui, il y a du développement, mais ça se base encore une fois sur les vues et sur le buzz.
Bon, après, là où ça s'est inversé, c'est que c'est vrai qu'à l'époque, c'était les artistes et les producteurs qui démarchaient les maisons de disques. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est les maisons de disques qui démarchent les artistes directement. Ça veut dire que les DA, aujourd'hui, c'est devenu des chasseurs de têtes. Alors qu'à l'époque, les DA, ils étaient tranquillement assis dans leur bureau et dans leur siège en cuir et ils faisaient des rendez-vous toute la journée. Aujourd'hui,
c'est comme
DA,
ça qu'on les représente d'ailleurs.
Pour aller signer les jeunes. C'est plus la même chose.
Et puis, il y a quand même quelque chose. Et j'imagine que, vu ce que vous nous racontez, Oumar Samaké, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus simplement la France, c'est plus simplement l'Europe. C'est le monde, votre jardin.
C'est le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, avec comme disent PNL, le monde Chico. Aujourd'hui, c'est l'objectif. Il est plus que de toucher la France. Tous les artistes aujourd'hui ont envie de toucher les d'autres territoires, que ça soit anglophone ou d'Europe de l'Est, partout, tout le monde veut.
Dinos ?
Ouais, mais c'est là qu'on voit la force d'une Aya Nakamura, de PNL, de Ninho, MHD, des artistes qui à l'étranger peuvent faire des concerts. Moi, j'ai fait un concert il y a un mois à Amsterdam. On a la chance de pouvoir chanter dans des pays où ils ne parlent pas notre langue et ils comprennent notre musique.
Et surtout qu'il y a des artistes français qui sont certifiés à l'étranger maintenant.
Qu'est-ce que vous voulez dire certifié ?
Certifiés qui sont disques d'or, disques de platine,
ah ouais,
etc. C'est ça. Donc ils sont certifiés. Et ça, c'est quand même pas mal. Hein.
Pour certains artistes, même comme Johnny Hallyday ou peu importe, c'est des scores que ces gens-là n'avaient pas.
Ouais,
il faut vraiment qu'on se rende compte de l'impact culturel qu'a le rap sur cette société.
Oui, et puis il faut reprendre par exemple ce que dit dans votre obsession rap Benjamin Chulvanige, qui dit à propos de Diams,
ouais,
il dit
la Husse.
non, mais il dit à propos de Diams, il dit les gars, on va faire danser les campings. Et c'est ce qu'a fait. Et quand tu fais danser les campings, les hyper tournent à bloc, et là t'as gagné. Et il y a cette dimension effectivement que avec Maître Gims qu'on évoquait tout à l'heure, avec d'autres, effectivement, on fait danser les campings, ou avec Aya Nakamura, on fait danser les campings.
Aujourd'hui, en tout cas, la France fait pas danser que le rap ne fait pas danser que les campings. Il fait danser la France entière. Et c'était l'objectif. Benjamin, il a toujours une vision. Bon, bref, on va pas parler de lui aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas,
on parlait tout à l'heure de l'union des rappeurs et des producteurs. Ouais. Pas l'air d'être tout à fait.
Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, le rap, ça ne fait pas danser que les campings, ça fait danser tout le monde. Et je vais pas dire que c'était l'objectif, parce que je pense pas que tous les rappeurs qui, de l'époque, leur but était que de faire danser tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est un fait et on en profite et on est tous contents de ça.
Merci à tous.
À qui la faute ? Dis-moi, à qui la faute ? À qui la faute ? Dis-moi. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Dis-moi. À qui la faute?
Et la fin, donc vous entendez tous les jours le générique du temps du débat, c'est Kery James et Orelsan, et là c'est la fin de ce morceau. À qui la faute ? Il faut absolument saluer le travail qui a été accompli par toute l'abécédaire du son. C'est donc l'obsession rap classique et instantanée du rap français chez Marabout. Merci. Très beau travail. Merci. Qui permet justement à des gens comme moi qui n'y connaissent pas grand chose de pouvoir rattraper le retard et peut-être de se mettre un tout petit peu au niveau. Merci à toute l'équipe aussi de notre émission Le Temps du Débat, qui m'a beaucoup aidé à préparer cette émission. Je vous dis, j'étais pas vraiment spécialisé. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille et Louise André à la technique, Jérémy Kaufmann à la vidéo, Cindy Le Grumelec à la réalisation, Alexandre Manzanares. Et ça n'est pas de musique dont vous allez parler dans la dispute
pas
dans trois minutes.
La musique,
ce soir.
C'est quel soir?
La musique, c'est le lundi.
Ah, j'ai encore perdu. Ouais, bon, tant mieux faire.
J'ai fait exprès, mais vous savez, j'ai beaucoup révisé sur le rap. Je ne peux pas réviser tous les soirs sur la dispute.
Pardon, bon, on va parler de cinéma ce soir. On va parler de film de Xavier Dolan, d'une ressortie, celle de Christine, de John Carpenter, d'après Stephen King, et l'expo Vampire à la Cinémathèque, lundi, le temps du débat.
Ah, tout à fait différent. Nous allons parler de l'EPR et du nucléaire à tout prix. Ça n'est pas grand, ça n'a pas grand chose à voir.
Ça peut être un bon nom de groupe, je pense. Non?
Oui, EPR, ça peut être un bon nom de groupe, effectivement.
Bah voilà, c'est, faudra le prendre. Vous écoutez France Culture, il va être 19h. C'est un micro qui grince et c'est celui de Mathieu Laurent qui va nous présenter les titres de l'actualité.